Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Les débats de panorama jusqu'à 19h sur Europe 1. La date approche, presque 2 ans d'invasion de l'Ukraine par les Russes, près de 10 ans de conflit, faut-il le rappeler, 2014-2024 avec Moscou. La France fait ce qu'elle peut, elle envoie encore une quarantaine de missiles Scalp. Où va-t-on comme ça? Quelle perspective de paix? On en parle avec les invités. Bonsoir Oksana Melnichuk.
Bonsoir.
Vous êtes politologue ukrainienne, présidente de l'association Unie pour l'Ukraine. Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir Pierre Devineau.
Spécialiste des questions internationales et de sécurité, président du CERAP, qui est le centre d'études et de réflexion pour l'action politique, enseignant à Sciences Po, auteur il y a 10 jours de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Vassili Karagiorgis.
Bonsoir.
Vous êtes à l'origine d'une initiative diplomatique pour la résolution du conflit en Ukraine et on va en parler parce que c'est très très intéressant. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
697e jour de guerre en Ukraine, je le disais, bientôt 2 ans de conflit. Quelle est la situation?
Alors on a appris aujourd'hui la mort d'au moins 25 personnes sur le marché de Donetsk, une ville de l'Est de l'Ukraine occupée par Moscou et régulièrement visée par des bombardements. 20 autres personnes auraient été blessées selon le chef de l'occupation russe de la région, Denis Pouchiline. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères russe condamne ce bombardement. Il dit, je cite, « Le régime néo-nazi de Kiev, soutenu par les États-Unis et leurs satellites, a une fois de plus commis un acte terroriste barbare contre la population civile de la Russie. Par ailleurs, les forces ukrainiennes ont revendiqué cette semaine 2 attaques contre des dépôts pétroliers sur le sol russe, l'une déjà dans la région de Leningrad, et l'autre dans la région de Bryansk, près de la frontière ukrainienne.
Qu'en est-il du soutien français et du soutien européen aux autorités de Kiev?
Alors, du côté de la France, ce mardi, lors de sa grande conférence de presse, le président de la République a annoncé la livraison d'une quarantaine de missiles Scalp et de plusieurs centaines de bombes. Il se rendra d'ailleurs en Ukraine en février. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a lui annoncé dans Le Parisien ce jeudi la production en 2024 de 78 canons César, avec l'espoir de, je cite, partager la facture avec les Européens et la coalition. Il s'est aussi félicité de l'accélération de la cadence de livraison de munitions, avoisinant, dit-il, les 3000 unités par mois à de la fin janvier. Du côté européen, les eurodéputés, qui sont plutôt alarmistes, ont réclamé aux pays de l'Union un renforcement significatif de l'aide à l'Ukraine, affirmant craindre qu'une défaite de Kiev face à la Russie soit aussi celle de toute l'Europe. Une inquiétude que les propos du Premier ministre slovaque n'atténuera peut-être pas avec ses déclarations d'hier. Il a affirmé que l'Ukraine n'est pas un pays indépendant et souverain, mais sous le contrôle total et l'influence des États-Unis, ajoutant qu'il mettra son veto à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, synonyme selon lui du déclenchement d'une troisième guerre mondiale.
Merci beaucoup de ces précisions, Capucine Patouillet, Oksana Melnichuk. Andriy Yermak, qui est l'un des plus proches collaborateurs de Volodymyr Zelensky, affirmé dans le Figaro, donnez-nous des armes, nous ferons le travail. Bon, pour l'instant, pour ceux qui en doutaient, on continue à fournir des armes aux autorités ukrainiennes.
On fournit l'arme pas aux autorités ukrainiennes, on fournit l'arme à l'armée ukrainienne, au peuple ukrainien, pour qu'on puisse faire notre travail, ça veut dire défendre l'Europe. Parce que dans la tête des Ukrainiens, on ne défend pas seulement l'Ukraine, on défend tout ce qui est la démocratie, parce que pour nous, c'est une guerre existentielle, c'est la guerre entre démocratie et le monde autoritaire, et nous, nous considérons que nous avons une forpost de l'Europe sur la ligne du front aujourd'hui.
Nicolas Tenzer, comment vous analysez les choses, alors que, évidemment, depuis le 7 octobre, les yeux du monde se tournent vers Gaza, pour des raisons tout à fait légitimes, louables, normales. La guerre en Ukraine continue. Est-ce que c'est une guerre silencieuse?
Alors, d'abord, c'est une guerre existentielle. C'est une guerre existentielle non seulement pour le peuple ukrainien et pour l'Ukraine, mais également pour l'Europe et au-delà pour les démocraties. C'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle. Soit l'Ukraine l'emporte et on peut espérer des jours meilleurs, soit la Russie gagne, et on peut craindre une extension du conflit, non seulement au sein de l'Europe, mais aussi partout ailleurs. On sait par exemple que la Russie, vous parliez d'Israël, est un des soutiens les plus connus du Hamas. C'est un soutien de l'Iran, qui fournit des drones Shahed à la Russie pour viser les civils en Ukraine. On pourrait rappeler également qu'en Syrie, les crimes russes, je rappelle toujours que la Russie elle seule a tué plus de civils syriens que même Daesh, continuent et se sont même intensifiés depuis quelques mois. Je pourrais parler de l'Afrique, ou de plusieurs pays d'Afrique en tout cas, où la Russie est très présente.
Ça s'est vu lorsque les dirigeants africains sont allés voir Poutine lors d'un sommet il n'y a pas si longtemps.
Bien sûr, et on sait aussi que Poutine essaye de jouer avec une partie du Sud global, Dieu merci, un certain nombre de dirigeants asiatiques, africains, etc., ne sont pas dupes non plus de ce jeu-là. Mais il faut bien voir que derrière les tentatives de déstabilisation et la guerre russe, qui est d'abord une guerre criminelle, qui a fait des centaines de milliers de morts, probablement plus de 200 000 en Ukraine, sans parler évidemment de la Tchétchénie, de la Syrie, etc. Eh bien, il faut penser que cette guerre-là, c'est une guerre qui nous concerne cause. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre « Notre guerre », parce que véritablement, je crois que c'est quelque chose où il ne peut pas y avoir de paix. C'est nécessairement la victoire totale d'un camp sur un autre et la défaite radicale de l'autre camp.
Juste un petit rappel, parce qu'on arrive aux 2 ans de guerre, et il y a un an, on disait, ça y est, la Russie est en train de flancher, certains pays de l'Est de l'Europe disaient, de toute façon, c'est bientôt fini, Poutine est complètement affaibli, et puis finalement, elle est toujours là, la Russie, elle continue, et d'ailleurs, il me semble avoir vu à la télévision la fille de Poutine dire à quel point la Russie n'était pas une nation intéressée par l'argent, mais par l'homme, par l'humain, la grande Russie. Le narratif était tout trouvé, quoi.
Oui, mais alors, un point rapidement là-dessus. D'abord, effectivement, la Russie, à la différence des nations européennes et des Nations Unies, a transformé son économie en une économie de guerre. Que deuxièmement, grâce à la complicité de pays comme l'Iran, comme la Chine, comme la Corée du Nord, elle a réussi à avoir un certain nombre de composants pour ses armes par le biais des contournements de sanctions sur lesquels nous devrions être beaucoup plus ferme. Et évidemment, tout ceci se fait aux dépens d'ailleurs du peuple russe, du peuple russe qui souffre avec la montée de la grande pauvreté, délabrement total des infrastructures, etc. Et puis aussi quand même plus de 370 000 personnes russes, des soldats russes qui ont été mis hors combat, soit mort, soit mutilé. C'est ça aussi, je dirais, la réalité d'un Poutine qui fait d'abord le malheur des autres peuples, notamment ukrainiens et syriens, mais aussi le malheur de son propre peuple.
Oksana Melnichuk, il est très habile finalement, Vladimir Poutine, c'est triste à dire, mais ça fonctionne.
Mais vous savez, la guerre, c'est la mathématique tout d'abord. Et notre général Zaloujny, c'est le chef de l'état-major ukrainien, dans son premier article, quand il a publié la stratégie de la guerre, les objectifs de la guerre de l'Ukraine, il a vu, j'ai à 80 km de moi le Crimée, je le vois, mais pour l'atteindre, il me faut ça et ça. C'était le cas quand il a présenté première fois le liste de courses, si vous voulez, le liste de l'armement nécessaire
pour l'Ukraine.
Et il a reçu toutes les promesses pour le fournir, cet armement. Et comme tous les chefs de l'état-major, les militaires, ils peuvent confier qu'il calcule, en fait, quand il y a une stratégie, il calcule combien il nous faut l'armement pour aboutir aux fins de cette stratégie. Mais on a reçu seulement 30% de tout ce qui était promis. C'est pour ça que nous n'avons pas reçu notre victoire comme on a tous attendé, espéré. Moi-même, je disais partout dans les médias français, on va gagner ici, d'ici, jusqu'à la fin de l'été 2023, vous voyez.
Il y avait un optimisme, une lancée qui était extrêmement positive et tout le monde y croyait.
Oui, parce que vous savez, nous avons une croyance.
Qui est toujours là.
On a toujours notre confiance à nos militaires, surtout à notre chef de l'état-major, général Zaloujny. Et s'il dit quelque chose, on le croit. On sait que ce n'est pas les blabla, ce n'est pas pour faire publicité pour lui-même. Donc on a bien compris, et tous les militaires le confirmaient, que si on a reçu tout cet armement-là qui a été promis, on pouvait vraiment aboutir à nos objectifs. Ça veut dire faire pousser Poutine en dehors des frontières de 1991. Mais en manque de l'armement, on a reçu seulement 30% promis. À ma connaissance, l'OTAN a dépensé uniquement 4% de son potentiel. Donc vous imaginez, on nous a laissé battre avec les mains qui étaient presque liées dans le dos. Avec tout ce qu'on peut, et je pense que c'était un vrai exploit de l'armée ukrainienne, parce que pour voir où nous sommes aujourd'hui, la flotte russe n'existe plus. Il était bien repoussé vers Novorossiysk, c'est un port qui n'est pas militaire, donc ils peuvent plus...
Quand vous dites que la flotte russe n'existe plus...
Mais parce qu'on a fait couler 20 bateaux à peu près, dont 2 flagmants de cette flotte.
Bon, je pense qu'il y a quand même quelques... Enfin, je parle sous le contrôle de Nicolas Tender, d'avoir quelques sous-marins qui sont toujours en train de tourner...
Mais vous savez, les sous-marins, quand on parle des sous-marins, les militaires disent que la mer Rouge, c'est une petite lac fermée, donc c'est pas un endroit où les sous-marins jouent le rôle essentiel. Bien sûr, on envoie les missiles sur notre sol, mais on pourrait charger et les sous-marines seulement à Sébastopol.
Bon, on sent chez vous la verve quand même, la croyance.
Mais il faut être optimiste, c'est comme ça on tient.
Mais ce que dit Oksana Melnichuk, mon avis est très juste. D'abord parce qu'effectivement, nous n'avons pas livré suffisamment d'armes. Et ça, c'est parfaitement évident. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné d'assez de missiles à longue portée.
Mais parce qu'on ne les avait pas.
Ah ben, les Américains, en tout cas, en avaient, et les Allemands ont toujours les taux russes, par exemple,
enfin, y a toujours...
qui refusent de donner.
C'est pas une histoire de refus, c'est aussi la façon de se dire, si on donne tout l'armement d'un pays, après on n'en a plus pour soi, en cas d'attaque.
Encore une fois,
Il y a deux façons de voir les choses, Nicolas Tenzer, c'est-à-dire que soit on donne tout en se disant, de toute façon, c'est une guerre, vous l'avez dit, élémentaire, fondamentale, et de toute façon, on est tous ensemble, soit on se dit, on en garde un petit peu pour soi, au cas où il y a une attaque russe.
Mais alors, dans les deux cas sur lesquels je ne parle pas des scalps français, nous avons donné ce que nous pouvions. Et nous allons en donner d'autres, c'est très bien. De même, les Storm Shadow britanniques, aussi missiles à longue portée, c'est très bien, ils ont vraiment donné un grand nombre. En revanche, les ATACMS américains, il y en a plus de 2000 en stock, et tous les experts américains, je ne parle pas français ou autres, disent que très facilement, les États-Unis auraient pu en donner 300 sur un stock de 2000 sans du tout, menacer leur propre sécurité. Mmh. Les taux russes allemands, où une grande partie de l'opposition demande à ce que le chancelier Scholz les livre, on pourrait parfaitement donner beaucoup. Les avions, regardez les F-16, il va y avoir 18 F-16, je crois, qui vont être donnés, mais bien tardivement, on a commencé l'entraînement très tard. Les États-Unis eux-mêmes ne vont pas en donner.
Ça ne se pilote pas comme une Smart non plus.
Non, mais sauf que les F-16, c'est comme on dit, des officiers français de l'air, qui eux-mêmes ont piloté, par exemple, des Mirage 2000, ils disent qu'un pilote entraîné, ce que sont les pilotes ukrainiens, peuvent se former en 4 ou 6 mois. Si c'était des Rafales, par exemple, les F-35, ce serait différent. Ouais. Mais voilà. Mais surtout, on n'en donne pas. Il y a eu énormément de retard.
Et d'interrogations et peut-être de réticence.
De peur. Entre-temps, dernier point, si vous me le permettez, tout cela se paye par des dizaines de milliers de vies ukrainiennes qui sont sacrifiées. Et je veux dire, les personnes, il ne faut quand même pas déshumaniser la guerre, c'est que derrière tout cela, vous avez les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide massifs, commis par la... Et on aurait pu sauver ces personnes. Donc il y a un vrai sujet, c'est une des interrogations sur mon livre aussi, sur les questions comment on organise la stratégie, on la pense différemment, mais aussi il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'on n'est pas obligé, et je crois que oui, de lier quand même nos questions de stratégie aux questions de la vie humaine. C'est quand même ça nos principes et nos valeurs.
C'est précisément la raison pour laquelle je vous présente Vassili Karagiorgis, qui n'est pas un expert comme vous, qui n'est pas comme vous, Oksana, politologue ukrainienne. Vous êtes un chef d'entreprise, vous avez travaillé par le passé pour une édition des Jeux Olympiques. Vous, et depuis toujours, vous êtes intéressé, vous avez un billet qui analyse l'actualité internationale, qui s'appelle Polymeris, mais vous n'apparaissez jamais dans les médias pour plusieurs raisons. Là, vous avez eu la gentillesse de venir ce soir parler de cette initiative, parce que figurez-vous, Nicolas Tenzer et Oksana Melnichuk, que Vassili Karagiorgis a publié il y a quelques temps, il y a quelques mois, une première vidéo sur YouTube. Alors, ça peut paraître un peu étrange, parce qu'on vous voit derrière un bureau un peu présidentiel, avec des dorures, etc. On se dit, tiens, il y a un chef d'État qui nous parle. Vous nous parlez en français, en anglais et en grec, puisque vous êtes franco-grec, et vous dites, voilà, on peut pas rester comme ça. On peut pas rester les bras croisés. Mmh. Et c'est assez amusant parce que cette première vidéo, elle a fait combien ? 2 millions de vues, c'est ça, sur YouTube ?
1 600 000 vues.
1 600 000 vues.
Je sais pas si mon micro marche.
Oui, oui, votre micro, vous voyez, il a pas l'habitude des médias.
Tellement inexpérimenté,
voilà. Et là, il a publié.
Vu un bouton rouge.
Vous avez publié une deuxième vidéo où, là encore, vous appelez à faire quelque chose. Une vidéo un peu plus poussée puisque vous êtes allé vous-même, vous avez pris sur votre temps pour aller à Kiev et à Moscou pour lier des liens diplomatiques.
C'était, oui.
Voilà, et vous dites, voilà, et là ça fait 2 millions 100. Et en fait, Vassili fait partie de ces gens qui se sont réveillés un matin en disant, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester les bras croisés.
Bravo.
Et c'est ça, Europe 1, en fait. On vous donne la parole à vous qui n'êtes pas forcément des experts aussi, parce que...
Merci beaucoup.
On a envie de savoir... J'allais dire, qu'est-ce qui vous a pris, en fait, Vassili Karagiorgis ?
Alors, d'abord, je passe jamais dans... je passe pas dans les médias. Je fais ça par devoir. Même YouTube, c'est la première fois que je faisais une vidéo YouTube de ma vie. Et c'est vrai que les contenus que vous avez évoqués, c'est pas des contenus publics. C'est des contenus, on va dire, semi-officiels, où je relayais de l'information de l'Union européenne, de l'ONU et du CIO. Parce que j'ai travaillé pour le mouvement olympique. J'étais rédacteur en chef du site officiel des Jeux olympiques il y a quelques années, l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes. Et puis après, je suis resté connecté au mouvement olympique parce que voilà, j'avais ce relais pour les différents...
Donc vous aviez des contacts dans différents organismes.
Exactement. Mais j'ai réfléchi. D'ailleurs, j'ai pensé, est-ce que je passe en complètement public ou pas ? J'ai décidé prudemment, peut-être trop prudemment, et puis, indépendamment de ça, là, ça m'a semblé en effet être mon devoir. Au moment, il y avait un moment précis, au moment où il y a la cérémonie d'annexion des différents oblasts,
c'est au Kremlin. Oblasts,
oui, voilà, au Kremlin, ce qu'il a appelé des oblasts. Et dans le même temps, les Ukrainiens avancent et Vladimir Poutine dit par tous les moyens, on défend ces territoires qu'ils considèrent comme des siens. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu une inquiétude fondamentale. Je suis un citoyen européen convaincu. Peut-être par mon, voilà, j'allais dire presque par nature, mais aussi par conviction. C'est mûrement réfléchi, c'est parfois un travail, parce que on a tous des atouts, il faut les développer, et c'est une langue.
Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ? Quel est le message exactement ?
Alors, le message, bon, d'abord, parce que en effet, je passe peu dans les médias, donc je vais dire le nom du projet. C'est, on rentre dans Google, Diplo FRGR 2023. Initialement, c'était un projet franco-grec qui est aujourd'hui un projet européen. Il a toujours été européen et par nature c'est européen. La France et la Grèce, c'est de part et d'autre de l'Europe. Donc dans Google, Diplo FRGR 2023, le premier résultat c'est Diplo Euro, c'est le nom de la chaîne YouTube. Et c'est comme ça qu'on a accès au projet. Il y a deux vidéos.
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous allez rassembler des gens pour aider l'Ukraine ?
Non, alors d'abord un soutien. J'ai aidé à travers différentes associations qui sont relayées notamment par Oksana. J'ai aidé des associations parce que la priorité évidemment c'est de soutenir le peuple ukrainien et Homes and Places par exemple, où on aide à héberger des enfants ukrainiens qui sont laissés sans rien. Évidemment, il y a une priorité humanitaire envers l'Ukraine, c'est clair. Et en même temps, l'idée, c'est de résoudre le problème sur le fond. C'était ça l'idée, c'est de résoudre sur le fond, sur le long terme, et parce que moi, j'avais envie que la guerre s'arrête. La première vidéo.
Vous n'êtes pas le seul, je crois, dans ce studio. Hein.
Mais je voulais que ça s'arrête. C'était la première vidéo. Elle date d'octobre 2022. Elle aurait dû être faite beaucoup plus tôt. J'avais dans la tête, c'était en gestation.
Il ne faut pas avoir de regrets.
Pour moi, c'est un drame. Oui, bien sûr. Mais alors, d'abord, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Tenzer. Il faut parler du conflit ukrainien. Merci beaucoup, Pierre, de nous donner cette possibilité. Et je pourrais quand même parler après, ou c'est mes derniers mots ?
Dernier mot.
Bon, alors, écoutez, je m'excuse.
Vous êtes crucifié après.
Ah d'accord, avec tout le respect que je vous
guillotiné.
Dois. Vous me donnez quelques
secondes.
Faut
pas dire ça un 21 janvier.
Vous me donnez quelques secondes juste. Quelques secondes, parce que c'est vraiment important. J'ai, avec l'immense respect, le travail que j'ai pour vous.
Parce que j'aimerais passer la parole à Nicolas Tenzer et à Géo. Qu'est-ce qu'on pense d'une initiative comme celle-ci, Nicolas Tenzer ?
Je ne connais pas le détail de l'initiative. Moi, je veux dire, encore une fois, la paix, nous sommes totalement pour. Bien sûr, tout le monde est pour. Mais il ne peut pas y avoir de paix, je le dis très solennellement, avec la Russie de Poutine telle qu'elle est aujourd'hui. Toute paix aujourd'hui, ce serait une amputation des territoires ukrainiens. Avoir des territoires sous le contrôle de la Russie, ça veut dire plus de tortures, de déportations d'enfants, d'exécutions sommaires. Ça veut dire une reconnaissance de la violation du droit international.
Là, vous êtes dans l'hypothèse du Donbass annexé par la Russie.
C'est-à-dire à un moment, il y a encore des gens qui parlent de négociations, d'accords de paix, etc.
De guerre lasse, on n'a qu'à lui laisser le Donbass et la Crimée. Et
oui,
puis voilà.
Mais sauf que c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire, dans ce cas-là, que Poutine en profiterait pour se réarmer, qu'ensuite il garderait 20% du territoire géorgien, en plus du territoire de l'Ukraine, et donc ça encore une fois, ça veut dire des crimes sans fin. Il garderait, je dirais, son emprise aussi sur le Bélarus, il continuerait ses crimes en Syrie, en Afrique, etc. Donc c'est pour ça que je procéderais tout à fait différemment, par exemple, pour le conflit entre Israël et la Palestine, où là, je pense qu'il faut viser la paix le plus vite possible. Il peut y avoir je ne parle pas avec le Hamas, mais je parle entre la Palestine et Israël. C'est vraiment une distinction importante. Pour la Russie, je ne vois pas de paix ou d'accord possible avec la Russie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je ne connais pas le détail de votre projet.
Bien sûr, voilà, si la guerre continue. Alors moi, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je vous écoute et je pense qu'il faut parler du conflit. Parce qu'avec maintenant les différentes actualités, notamment Hamas.
De la guerre. Et surtout pas de l'opération spéciale.
Ce que je veux dire, il faut parler de ça. Merci Pierre Devineau de parler de l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins avec le conflit, etc. Donc je suis d'accord avec vous. Là, on partage la vie là-dessus. Je suis aussi d'accord que ça n'a pas de sens de parler d'Occident. Je me souviens, je vous ai entendu dire Occident. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, est-ce que Cuba est en Occident ? Moi, c'est une terminologie que je ne suis pas complètement d'accord avec ça. En revanche, je suis tout à fait d'accord également avec vous sur... Enfin, pas en revanche, justement, et également avec le mot action. Vous dites, moi je suis... c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les négociations comme avant, parce que vous parlez des négociations qui vont dans le mur, et c'est vrai que ce n'est pas possible de continuer comme ça. D'ailleurs, pourquoi parler de négociations directes? On n'est pas forcément obligé de parler de négociations directes avec la Russie. Moi, je reste sur la terminologie de mon projet. L'action diplomatique. L'action... Toujours l'action. Vous êtes d'ailleurs,
ça,
Nicolas...
Oksana Beltunov, vous ne pouvez pas terminer.
J'ai rebondi déjà. Oui. Il faut comprendre que le mot paix, il est absolument discrédité aujourd'hui par Poutine.
J'ai pas dit paix.
Il faut parler plutôt de la système de sécurité intégrale qui va commencer après la fin de la guerre. Parce que selon nous, les Ukrainiens, la paix dont vous pensez, ça veut dire l'État sans guerre, pourrait s'installer seulement quand on va faire quand on va assurer la défaite totale de l'armée. Et la défaite totale de l'armée russe va provoquer défaite de la régime de Poutine. Parce que quand on connaît les objectifs de Poutine dans cette guerre, on comprend bien qu'aucune négociation, aucune action diplomatique ne va pas marcher. Parce que selon notre service de renseignement extérieur, il y avait une très grande analyse qui était publiée par le chef de ce service. Poutine mène une guerre mondialisé sur le sol ukrainien contre l'Occident, contre l'Occident, l'Europe et les États-Unis. Et dans cette guerre, il y a quatre objectifs. Il faut bien les prendre en compte pour comprendre pourquoi les négociations et les actions diplomatiques ne vont pas marcher. Premier objectif, c'est renforcer son régime à l'intérieur. Deuxième objectif, c'est créer les coalitions alternatives à celles d'Occident pour décourager les élites politiques occidentaux être en résistance contre le régime poutinien, parce qu'aujourd'hui, nous observons l'international des terroristes. Avant, c'était international communiste. Aujourd'hui, nous avons l'international des pays terroristes. La Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, il y a tout un bouquet. Troisième objectif important pour Poutine, c'est alimenter tous les conflits qui existent dans le monde. Parce qu'en Ukraine, par exemple, la guerre en Israël aujourd'hui, elle est considérée comme le deuxième front de la guerre mondialisée qui mène Poutine. On voit les grandes oreilles des Russes derrière tout ça.
C'est ce qu'on dit avec Nicolas Tenzer.
Voilà. Et quatrième point aussi très important, le régime de Poutine, il prépare maintenant les agressions contre les autres pays. Et le premier pays sur la liste, c'est Moldavie. Après, ce sera les Pays-Baltes. Après, ce sera Pologne.
Ah bon? Donc, même avec l'OTAN? Il n'y a pas le mur de l'OTAN? Il n'y a pas une Nicolas Tenzer?
Alors, pour la Moldavie n'est pas dans l'OTAN, bien sûr. Pour les autres, je pense qu'à partir du moment où Poutine a jugé notre absence de résolution suffisante sur l'Ukraine depuis 10 ans, de même sur la Syrie, etc., ou sur le Bélarus, eh bien, je pense qu'il peut se dire, est-ce que véritablement, surtout si on a un Trump à la Maison-Blanche, mais même sans, est-ce que véritablement les alliés vont aller mourir pour un pays de l'OTAN? Et je pense que la question aujourd'hui de la garantie de l'OTAN, elle pose un véritable problème. Est-ce qu'elle est totalement crédible?
Oui.
Avec un Trump à la Maison Blanche, malheureusement, je serais amené à en douter fortement.
Ça veut dire que Trump laisserait Poutine envahir la Moldavie tranquillement.
La Moldavie qui est hors OTAN, mais peut-être même les Pays-Baltes.
Vous êtes de cette avis?
Mais bien sûr, aujourd'hui, il a salué Orban, il a dit que c'est le meilleur leader de l'Europe. Bon, mais qu'est-ce que nous pouvons entendre
là-dessus, je vais répondre. Et pour juste un tout petit cheminement, moi, je vous ai écouté sur France 24, Nicolas, il y a 10 jours. Et
merci donc, de faire la concurrence avec nous. Alors, on est sur Europe 1, pas sur France 24.
Mais si j'ai bien compris, vous, donc personnellement, vous souhaitez que les Ukrainiens, donc vous dites qu'ils peuvent vous dites que le chef de l'État et ses successeurs, je vais arriver à la réponse juste un tout petit cheminement, pardon. Sur France 24, donc il y a des jours, vous dites que le chef de l'État et ses successeurs, c'est-à-dire les présidents de la République, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, leur Premier ministre et leur ministre des Affaires étrangères ont fait preuve de lâcheté, de bêtise et d'absence totale de sens moral. Et je trouve que c'est violent. Et c'est
alors
peut-être
je
un peu
de tout.
Je ne parlais pas
en particulier pas de Hollande, qui, je pense, Hollande a été particulièrement lucide.
Mais vous avez dit les autorités françaises.
De Sarkozy et de Chirac,
je ne veux pas du tout être... Il ne m'a pas laissé terminer mon propos. Mais encore une fois, par rapport à l'action, vous êtes président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Donc vous aimez le mot action, et on a ça en commun. Nous avons ça en commun. Mais juste pour terminer. Donc, Vous le reprochez d'avoir fait preuve de réalisme, et je pense que c'est le devoir d'un dirigeant d'être vis-à-vis des citoyens de son
le
pays.
Le contraire du réalisme.
Oui, mais c'est la même chose pour tous les dirigeants de part et d'autre de l'Europe. Il faut faire preuve un peu de réalisme peut-être dans cette histoire. Et non, j'aimerais juste terminer, excusez-moi.
Non, mais ça fait deux minutes que vous essayez de terminer.
Non, parce que pour revenir à votre question.
Mais on n'a pas le temps.
Pour revenir à votre question. Et donc, vous voulez qu'on frappe. Oui. Ces dirigeants, les dirigeants français, la présidence de la République, la diplomatie française, elle a réussi, c'était sa priorité, que le conflit ne soit pas externalisé. Et je pense que sur ce point, moi, les diplomates, enfin, je ne suis pas diplomate.
Il est déjà externalisé. Déjà dans la. Et ce n'est pas le conflit.
Oui,
le mot conflit, il vous empêche de bien voir les choses. Mmh. Il faut parler de la guerre mondialisée. Oui. Et comme ça, vous allez bien comprendre.
Non, je parle du conflit militaire, parce que j'essaie de voir le verre à moitié
plein. Militaire. Moi, conflit militaire, ça veut dire qu'il y a un petit problème qu'on peut résoudre dans les instances internationales. Les instances internationales, ils ont prouvé son incapacité. Donc, ce n'est pas le conflit, c'est une guerre.
Oui.
C'est une guerre qui touche maintenant l'approche aérienne, touche maintenant l'humain, ça fait partie de la même chose.
Je suis d'accord.
Et l'attention qui est à Taïwan, bon, on est pleinement dans la guerre mondialisée,
mais quand un missile tombe en dehors de l'Ukraine, et encore une fois, quand un missile, à chaque fois, on s'est rendu compte que ça n'était pas largé. Je dis bien que, attention, il y a des choses horribles qui se passent. Ça n'a pas été externalisé. À chaque fois, c'est de la désinformation.
Calmez-vous, Vassili Karagiorgis.
Pour répondre à votre préoccupation, ce n'est pas du tout parce que nous, occidentaux, ou démocratie, je préfère encore le terme démocratie, là, je vous rejoindrai, parce que ce n'est pas uniquement l'Occident, il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, qui soutiennent l'Ukraine fortement, également le Chili, etc. Bon, et l'Argentine. On aurait frappé directement les forces russes en Ukraine après le 24 février 2022, le conflit n'aurait pas été externalité. Et nous, démocratie, je ne parle pas uniquement de la France, je parle de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et beaucoup d'autres, nous aurions parfaitement pu agir, et si on avait visé, et c'était parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, des forces russes sur le territoire ukrainien, ce n'aurait pas été externalisé. On aurait pu tout simplement arrêter, et je pense que Poutine n'aurait pas réagi, Poutine n'aurait absolument pas réagi, on aurait sauvé des dizaines de milliers de vies. Et vraisemblablement, nous aurions donné des garanties de sécurité, un signe vis-à-vis aussi de nos alliés, Corée du Sud, Taïwan et Japon, Australie, de notre résolution. Et je pense que le conflit aurait été arrêté aussi court.
Juste une question à Oksana Melnichuk pour terminer. Vous avez dit tout à l'heure, le but c'est quand même d'achever d'une certaine manière l'armée russe. Mais comment est-ce que vous voulez en terminer avec l'armée russe alors que c'est une hydre à plusieurs têtes, puisque à chaque fois il y a une réserve d'hommes qui est impressionnante?
Selon notre service de renseignement, vous savez, cette guerre hybride, elle est composée de plusieurs. C'est une guerre des services de renseignement, c'est une guerre psychologique, c'est une guerre idéologique, tout ce que vous voulez, guerre économique. Donc, notre service de renseignement, le potentiel de la Russie n'est pas si grand qu'on imagine. Et même les chairs à canon, ça s'épuise. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui à Bashkirtistan. C'est une petite menotte qui était commencée par quelques milliers de gens. Maintenant, c'est déjà répandu sur toute la République. Donc, nous pensons que ça va être monté un peu partout. Et selon notre information, les Russes, ils n'ont pas en capacité de finir cette guerre en sa faveur. C'est pour ça, dès que vous attendez qu'il faut créer la paix, il faut avoir les négociations, ça veut dire que les Russes, ils sont incapables de finir.
Merci beaucoup, Oksana Melnichuk. Pardonnez-moi, mais l'émission prend fin. Nicolas Tenzer, on va tous lire Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique à l'Observatoire. Et puis Vassili Karagiorgis, on va vous suivre via les liens que vous nous avez donnés dans cette émission.